En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le lundi 2 avril 2007, le docteur Aline Marcelli, membre correspondant de l'Académie nationale de médecine et président d'honneur du Conseil de l'Ordre des médecins de la ville de Paris, a fait une communication sur le thème « Confidence et secret médical » devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Retrouvons-la de ce pas en séance.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, des académiciens, mesdames, messieurs. Mes premières paroles seront pour vous remercier, monsieur le président et monsieur le secrétaire perpétuel, d'avoir bien voulu m'inviter, me faire l'honneur de m'inviter pour traiter le sujet devant votre compagnie Confidence et secret médical. Je vous en suis profondément reconnaissante. S'il est vrai qu'à l'origine était le verbe, je dirais moi, qu'à l'origine du secret médical est la confidence. Mais nous serons amenés à constater que la confidence n'est qu'un aspect du secret médical. En effet, dans l'intérêt même des patients, sont apparus de nombreux cas dans lesquels le secret médical est partagé avec d'autres personnes que le médecin et le patient. À leur propos, il faudra évoquer deux éléments, deux réformes, qui, dans un proche avenir, apporteront des modifications considérables à l'exercice actuel de la médecine. Le dossier médical personnel et son corollaire, l'hébergement des données de santé. Il existe toutefois de nombreuses limites pour le partage du secret professionnel du médecin. De même, la protection de la confidentialité des données de santé susceptibles d'être communiquées est assurée par diverses mesures qui affermissent et confirment la nécessité du maintien du secret médical dans notre société. C'est en définitive cette confidentialité et le secret médical qui la protège, qui demeurent tous deux les meilleurs garants d'une médecine de qualité. Il est peu de principes qui, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, aient résisté aux outrages des siècles, mais il en est un au moins, le principe du secret médical qui a survécu à tous les outrages qu'il a subis. Il constitue un contrat moral qui scelle un pacte de confidentialité entre le médecin et son patient. En effet, le dogme de la confidentialité est le socle sur lequel se fondent tous les secrets professionnels, dont le secret médical est la composante séculaire. Le terme de séculaire est pleinement justifié car la première apparition de la notion de secret médical remonte à Hippocrate pour lesquels les médecins, lors de leur soutenance de thèse, prêtent toujours le serment. Je prendrai le serment originel. Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement ou même en dehors du traitement concernant la vie des gens, si cela ne doit pas être répété, au dehors, je le tairai, considérant que ces choses-là sont secrètes. Depuis, l'Antiquité s'est ainsi érigé, peu à peu, un édifice destiné à garantir le respect du secret médical, le respect de la vie privée et de l'ordre social. Mais que recouvre plus exactement ce mot « confidentialité » ? La réponse est fournie par des tests législatifs et réglementaires qu'il institue et par des décisions des juridictions judiciaires et administratives qui sont chargées de les appliquer. Rappelons au niveau européen l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne sera l'objet d'immixtion dans sa vie privée. Et sur le niveau national, l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Ces textes se retrouvent dans deux articles du Code de la santé publique, l'article L1110-2, la personne malade a droit au respect de sa dignité L'article L1114, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, par un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. De son côté, l'article 226.13 du Code pénal dispose « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » Enfin, cette disposition légale est reprise par l'article 4 du Code de déontologie médicale. Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Mais le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais ce qu'il a vu, entendu ou compris. Il existe une différence entre ces deux rédactions. Le Code pénal retient une information à caractère secret. Le Code de déontologie médicale étend la confidentialité à tout ce que le médecin a vu, entendu ou compris. Quoi qu'il en soit, de ces deux rédactions, la jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, a toujours considéré que le secret médical revêt un caractère général et absolu. Les passages qui vont suivre à ce sujet, je peux les citer, car ce sont les commentaires du Code de déontologie médicale dont je suis en partie auteur pour l'édition de 2001. La Cour de cassation a la première posé le principe dès le siècle dernier dans un arrêt Vatelet de 1885. Elle l'a repris dans de nombreuses décisions qu'elle a rendues depuis cette date et notamment avec l'arrêt de Graines du 8 mai 1947 dans laquelle la Chambre criminelle énonce l'obligation du secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur état, elle est générale et absolue, et il n'appartient à personne de les en affranchir. Le Conseil d'État a pris des décisions dans le même sens. Le caractère général et absolu du secret médical emporte de nombreuses conséquences. Le malade ne peut délier le médecin de son obligation de secret. Cette obligation ne cesse pas après la mort du malade. Le secret s'impose même devant les tribunaux. Le secret s'impose également à l'égard d'autres médecins qui ne soignent pas les malades. Le secret doit être observé à l'égard de personnes tenues elles-mêmes au secret professionnel, par exemple les agents des administrations fiscales. Le secret couvre non seulement les confidences et l'état de santé du patient, mais également son nom. Le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont eu ou qui ont recours à ces soins. En réalité, le secret médical est à la fois d'intérêt privé et d'intérêt public. D'intérêt privé, respecter le secret est un comportement qui est imposé par la nature des confidences dont la divulgation pourrait porter atteinte à la réputation, à la considération ou à l'intimité de la personne qu'elle concerne, et d'intérêt public, car la conservation des secrets privés est l'un des aspects du droit public des libertés. De même, il est souhaitable que ceux qui se font soigner, même lorsque leur situation est, disons, incertaine, n'aient pas à craindre d'être trahis ou même dénoncés aux autorités. Enfin, votre ancien président, le bâtonnier André Damien, a fait remarquer que le Code pénal a sans doute moins pour but de protéger les confidences que de garantir le respect d'un devoir professionnel indispensable à tout fonctionnement de la société. Et précisément, puisque je parle maintenant de problème qui n'est pas soulevé et couvert par le secret professionnel, je ne résiste pas non plus au plaisir de noter que le bâtonnier André Damien est l'auteur de plusieurs livres, de plusieurs articles qui font autorité sur la question. L'un paru en 1989, Le secret nécessaire et La foi du palais, ou encore un article publié par la Gazette du Palais du 16 mars 1982, Le secret professionnel. Mais cependant, si le principe du secret médical est demeuré immuable, force est de constater qu'il a été modifié par un certain nombre d'exceptions qui lui ont été apportées au cours des ans. Leur ensemble se résume dans des termes apparemment antinomiques de secret partagé. Car un secret partagé reste-t-il un secret? La réponse est forcément négative s'il tombe dans une multitude de raisons discrètes. Elle peut être plus nuancée s'il est réservé à quelques initiés dont la discrétion ne peut être mise en doute car ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel et ils sont tenus de ne pas divulguer ce qu'ils ont appris dans l'exercice de leur profession. Il est alors possible de parler de secret médical partagé et nous pouvons constater presque chaque jour dans les publications scientifiques, dans la littérature ou à travers les organismes d'information, il s'agit d'une notion de plus en plus répandue dans notre société moderne. Le domaine du secret médical ne peut être abordé qu'en tenant compte d'une distinction fondamentale. Dans certains cas, les textes obligent le médecin à briser le secret qu'il devrait observer. Il s'agit du partage obligatoire du secret médical. Dans d'autres cas, le praticien est seulement autorisé à lever le secret dont il est détenteur. Le partage devient alors facultatif. L'exposé qui va suivre de ces deux catégories de secrets et de partage risque de revêtir parfois un aspect un peu didactique. Il convient donc de se demander à qui en revient la faute. Peu de gens aiment se reconnaître coupable ou même responsable. Gavroche déclamait déjà « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Quant à moi, je ne me considère ni coupable ni responsable, je vais être obligé de procéder par énumération. » En effet, le secret médical est protégé par l'article 226-13 du Code pénal. Les dérogations à un texte de loi ne peuvent donc résulter que d'autres textes de loi qu'il n'est évidemment impossible de passer sous silence. Gavroche dirait sans doute à peu près ceci à ma place, si je suis énumératif, c'est la faute au législatif. Les dérogations obligatoires du secret médical sont instituées, soit à titre collectif, dans l'intérêt public, soit à titre individuel, dans des situations personnelles. À titre collectif, le Code de la santé publique prescrit la communication à l'autorité sanitaire des données individuelles anonymisées concernant les maladies nécessitant une intervention urgente, locale ou régionale, et ou celles qui sont nécessaires à la surveillance de la conduite et de l'évaluation de la politique de santé publique. Toutefois, l'autorité sanitaire peut demander que lui soit fournie toute information nécessaire à la mise en œuvre de mesures d'investigation et d'intervention, y compris l'adresse et l'identité du patient. L'Institut de veille sanitaire peut exiger toute information lui permettant de maîtriser les risques pour la santé humaine. Les autorités judiciaires peuvent se faire communiquer par saisie ou par perquisition des dossiers médicaux qu'ils veulent examiner. Les injonctions judiciaires pour prévenir la délinquance sexuelle ou la toxicomanie obligent le praticien de saisir la justice de ses conclusions. Le médecin qui déclare un décès ou une naissance partage avec l'état civil le secret. À titre individuel, des dérogations sont prévues en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de pensions civiles et militaires de retraite, des pensions militaires d'invalidité, ou en faveur des victimes d'une contamination par le VIH au cours de transfusion ou des victimes d'un accident médical. De même, Le secret médical est levé dans certaines situations relatives aux incapables majeurs, à la procédure d'internement, aux alcooliques présumés dangereux et au dopage des sportifs. Il reste le cas de celui qui est en réalité le principal intéressé par la notion de secret médical, le patient lui-même, puisqu'il partage ce secret dont il est la source avec le médecin qui en est le dépositaire. Pour lui, le problème se trouve dans un conflit d'alternatives. Garder le secret pour préserver son intimité ou le laisser dévoiler pour obtenir les meilleurs soins possibles. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade, celui-ci dispose de droit à toutes les données médicales le concernant. Devant être complètement informé de son état, le secret médical ne lui est évidemment pas opposable, de même qu'il n'y est pas lui-même tenu. Dans d'autres cas, le médecin, c'est le second chapitre, est seulement autorisé à ne pas observer le secret qu'il détient. Comme précédemment, un texte légal ou réglementaire ou une décision de justice est toujours indispensable pour que le praticien puisse le lever, le secret dont il est détenteur. Le partage du secret médical peut alors être autorisé, soit au profit de professionnels de santé, soit au profit de simples tiers. Au profit de professionnels de santé, c'est article 226.14 du Code pénal. L'article 226.13 du Code pénal ne s'applique pas aux médecins qui informent les autorités de privation et de sévices ou de sévices dont il a eu connaissance infligés à un mineur ou à une personne incapable de se protéger elle-même. Aux médecins qui, avec l'accord de la victime, prévient le procureur de la République de sévices sexuels ou de privation qu'il a constaté. Aux professionnels de santé ou de l'action sociale, qui avertissent l'autorité préfectorale du caractère dangereux de leurs patients qui détiennent ou veulent acquérir une arme. La procédure du signalement permet à un médecin de révéler à la justice le cas de ses patients qui ont besoin d'une mesure de protection judiciaire. Un partage du secret médical est admis dans le cadre de certaines recherches, notamment en pharmacologie nationale ou internationale. Rentrent également dans cette liste des professionnels de santé au profit desquels le partage du secret médical est autorisé, le médecin intermédiaire. Toute personne peut exercer son droit d'accès aux informations relatives à sa santé, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Le médecin responsable du département d'information médicale dans un établissement de santé, c'est le DIM. Les médecins conseils de la sécurité sociale et les médecins inspecteurs de la santé. Les commissions, des relations avec les usagers dans les établissements de santé. Enfin, le médecin lui-même, s'il est poursuivi devant une juridiction, peut, pour sa défense, révéler des faits couverts par le secret médical. D'une façon plus générale, dans l'intérêt des patients et pour l'optimisation des soins, les médecins se sont toujours adressés à certains de leurs confrères qui sont choisis soit parce qu'ils vont eux-mêmes prendre en charge le malade, soit pour recueillir leur avis, en particulier en tant que spécialistes. Parfois, même des médecins connaissent des données médicales de patients qu'ils ne soigneront pas. C'est le cas du médecin hébergeur, dont nous parlerons tout à l'heure, et éventuellement le médecin intermédiaire. Enfin, ceci est très important, des professionnels de santé autres que des médecins peuvent partager un secret médical avec le patient, avec le praticien traitant, c'est le cas du patient pris en charge par une équipe multidisciplinaire et pluriprofessionnelle. Les informations concernant ce patient sont réputées confiées à l'ensemble de l'équipe. Il reste à examiner les cas de partage du secret médical autorisé en faveur de simples tiers. Il faut d'abord constater que leur nombre n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Tout patient hospitalisé peut désigner une personne de confiance, un médecin, un parent ou un proche, qui sera consulté lorsqu'il est incapable d'exprimer sa volonté. En cas de diagnostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent avoir accès à des informations médicales. Les ayants droit d'une personne décédée, et il s'agit de successeurs légaux, peuvent obtenir des renseignements leur permettant de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits. La présence d'un tiers lors d'une consultation pour certaines informations peut être recommandée par le médecin pour des motifs tenant au risque que la connaissance de ces informations puisse faire courir au malade sans accompagnement de ce tiers. La jurisprudence admet également que dans les procédures concernant les rentes viagères, les assurances vie, les testaments, les plaideurs sont autorisés de se servir des renseignements médicaux en leur possession. Enfin, plus redoutable encore pour le secret médical, se profile à l'horizon les aspirations de nos sociétés modernes qui revendiquent, entre autres exigences, le droit de savoir. Toujours avide d'informations récentes et exceptionnelles, le monde contemporain s'appuie sur le nouveau principe constitutionnel de précaution et sur le désir de transparence pour réclamer la levée de tous les secrets, aussi bien en matière médicale qu'en matière judiciaire. Ces listes de cas où le secret médical doit ou peut être partagé est assez impressionnante. Mais il existe cependant des limites à ce partage. Deux acceptions de la notion de partage du secret médical peuvent d'ailleurs être envisagées. La première acception est objective et restrictive. Selon elle, le médecin est le seul dépositaire des confidences de son patient et du diagnostic qu'il a formulé. Il sera donc le seul à pouvoir les partager dans les limites, aussi restreintes que possible, des textes existants. La seconde acception est subjective et extensive. Elle constate que le patient, seul à l'origine des révélations qu'il a faites au médecin, n'est soumis à aucune réglementation. Il pourra donc divulguer ce qu'il désire et ainsi toutes les données médicales le concernant. Compte tenu de ces considérations, des limitations très importantes sont actuelles, l'article du Code pénal que nous avons cité, d'autres textes législatifs, la loi du 8 janvier 1978 instituant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la loi du 1er juillet 1994 sur les recherches médicales et la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. D'autres limites, des textes réglementaires, tels le Code de déontologie médicale qui est un décret du 6 septembre 1995, les règles professionnelles des infirmières et le Code de déontologie des sages-femmes. Voilà des limites. Mais aussi de la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2004 a décidé qu'un établissement de santé ne devait pas transmettre à un expert judiciaire des informations médicales sans l'accord du patient le concernant. C'est l'application de cette théorie objective et restrictive, selon laquelle le secret médical doit être rigoureusement gardé, non seulement par le médecin traitant, mais aussi par son entourage. Par deux autres arrêts, des 7 décembre 2004 et du 26 septembre 2006, la Cour de cassation a estimé qu'un assureur pouvait produire en justice un document couvert par le secret médical si le patient y renonçait. Ces deux arrêts s'inspirent de la théorie subjective et extensive qui et sont visiblement d'inspiration plus libérale. Il faut remarquer toutefois qu'ils ne remettent absolument pas en cause le principe même du secret médical qui s'impose aux médecins. Il ressort de toutes ces décisions qu'il y a lieu d'inverser en la présente matière les termes de l'adage, peut-être un peu cynique, selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Il faut retenir ici, au contraire, que tout partage du secret médical qui n'est pas autorisé est interdit. Enfin, une autre limitation résulte du comportement du patient lui-même, puisqu'en vertu des nouvelles lois, toute communication de données médicales par des praticiens est subordonnée à son consentement. Aux limites énumérées ci-dessus, qui définissent les conditions dans lesquelles le secret médical doit ou peut être partagé, s'ajoutent d'autres dispositions pour protéger la confidentialité. En effet, de nouvelles technologies de l'informatique et de la communication ont accéléré et facilité la diffusion des renseignements médicaux, augmentant les risques de divulgation. Diverses mesures ont donc été élaborées afin d'en protéger la confidentialité. Sont apparus ainsi les réseaux de communication de haute sécurité, facilitant le transfert de données de santé cryptées avec l'utilisation d'un double code d'accès, la carte de professionnel de santé et la future carte vitale 2. Les feuilles de soins électroniques avec codage des actes et des pathologies qui améliorent les garanties de sécurisation par rapport aux feuilles papier. Les données médicales nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé doivent être anonymisées. Le système de protection juridique des données de santé mis en œuvre par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Celle-ci dispose d'un pouvoir de contrôle, a priori sur l'enregistrement de tous les fichiers informatiques et d'un pouvoir de contrôle a posteriori sous forme de sanctions administratives et de sanctions pécuniaires. Enfin, il faut rappeler que toute saisie d'un dossier médical, toute saisie judiciaire, ne peut être effectuée qu'en présence d'un représentant du Conseil de l'Ordre des médecins. Deux réformes importantes vont modifier le mode d'exercice actuel de la médecine, je l'ai dit en débutant, le dossier médical personnel, son corollaire, l'hébergement des données de santé. Posons d'abord les règles. Dans le cadre de la présente communication, nous n'avons pas à nous préoccuper de leur fonctionnement. Nous avons seulement à rechercher, au vu des textes actuels, comment est assurée la confidentialité des données médicales qu'elles mettent en œuvre. En ce qui concerne le dossier médical, personnalisé, personnel, l'article L161-36-1 du Code de la Sécurité sociale déclare qu'il est institué dans le respect du secret médical. Les textes déjà publiés précisent que son organisation se fait dans le respect des règles déontologiques. Il est impossible de citer dans cette communication peut-être trop chargé, je m'inquiète, le détail des mesures prises à cet effet. Ceci d'autant plus qu'au cours de cette année 2007 est encore prévue la publication de 3 décrets concernant les identifiants, la confidentialité. Disons seulement que le dossier médical personnel sera électronique, accessible en ligne et non établi selon une procédure papier, ce qui permettra des connexions dans toute la France. Le dossier doit être structuré, le langage utilisé défini, l'identifié précisé, avec un double code d'accès. Le risque demeure, cependant, dénoncé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il consisterait à attribuer à chaque titulaire d'un tel dossier le même numéro INSEE que celui qui est déjà le sien dans les fichiers de l'assurance maladie. En effet, la confrontation de ces deux fichiers, de ces deux séries de fichiers, pourrait alors être effectuée aussi bien par les services médicaux que par les personnels administratifs. L'hébergement des données médicales. Il est prévu par la même loi du 13 août 2004 qui a créé le dossier médical, toujours dans le respect du secret médical. L'agrément d'un hébergeur par le ministre de la Santé est soumis à de multiples conditions que là encore, il est impossible d'énumérer dans le détail. Relevons seulement que l'hébergeur doit définir et appliquer une politique de sécurité pour garantir la confidentialité des données, la protection des accès et la pérennité des renseignements médicaux. L'hébergeur doit aussi identifier les personnes en charge de l'hébergement, parmi lesquelles doit figurer obligatoirement un médecin. Si l'hébergeur n'a pas accès lui-même au contenu des dossiers médicaux personnels, par contre, ce médecin pourra en connaître le contenu en cas de collision ou de confusion entre les dossiers de deux ou plusieurs patients. Les textes relatifs au dossier médical personnel et à l'hébergement des données médicales font donc une très grande part à la protection de la confidentialité et au secret médical. Ces réformes sont-elles bonnes ou mauvaises? Vont-elles engendrer les résultats, entre autres ceux qui sont attendus, des économies que nous espérons? En d'autres termes, ces innovations s'apparenteront-elles à des anges ou à des démons, ou sera-t-il possible de reprendre à leur propos le quatrain par lequel Corneille exprimait son sentiment sur le cardinal de Richelieu? Par le mal qui voudra du fameux cardinal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. L'avenir répondra pour nous. En conclusion, les médecins ont toujours ressenti le besoin de communiquer entre eux pour le meilleur suivi de leurs patients et afin d'optimiser la qualité des soins. C'est pour cette raison que l'on peut admettre que la notion du secret médical partagé est acquise une dimension nouvelle. Avec l'évolution technologique, scientifique, sociologique, économique de la médecine moderne. Cette tendance au partage risque de s'accentuer avec l'essor de la médecine pluridisciplinaire et multiprofessionnelle, ainsi qu'avec le développement des moyens informatiques, au point qu'il est possible de parler de télémédecine, avec par exemple le télédiagnostic et la télé-expertise. Il faut souligner les progrès remarquables et récents de cette télématique. Ils ont déjà commencé à transformer la pratique de la médecine en général et la pratique de la chirurgie en particulier. L'ensemble de ces très importantes évolutions ne pouvait qu'être reconnu par le législateur. C'est ce qui s'est produit avec la promulgation de diverses lois, dont les principales viennent d'être rappelées. Mais ces lois innovatrices ne sont pas iconoclastes. Elles prennent soin, en effet, nous l'avons indiqué, de tracer un réseau de mesures protectrices de la confidentialité, telle celle de l'article 1114 du Code de la santé publique. C'est une raison supplémentaire pour continuer à maintenir fermement le principe du secret médical afin d'éviter des atteintes aux libertés individuelles et à l'intimité de la vie privée de chacun d'entre nous. D'ailleurs, les termes mêmes, le secret médical partagé, en posent eux-mêmes les bornes puisqu'ils impliquent que le secret médical existe toujours. Sa violation reste interdite si son partage peut être admis sous certaines réserves. En effet, s'il améliore la qualité des soins, il peut provoquer un traumatisme moral grave chez le patient dont on révèle l'intimité. En outre, cette extension du champ d'application du secret médical partagé a eu pour conséquence non souhaitée de rendre plus complexe la recherche d'une responsabilité médicale compte tenu de la multiplicité des intervenants. Il apparaît finalement que ce que l'on a pu appeler le secret médical moderne entre professionnels de santé, scientifiques et partenaires socio-économiques n'a pas détrôné l'ancien secret individuel propre au colloque personnalisé qui unit depuis Hippocrate le patient à son médecin auquel était autrefois attribué le nom de médecin de famille. Et en définitive, le secret médical est effectivement demeuré et doit demeurer une des bases de l'éthique médicale au même titre que les deux autres principes fondamentaux de celle-ci, la liberté de choix du patient et l'indépendance du médecin. C'est ainsi que l'a excellemment écrit le professeur Bernard Herny dans son livre « Éthique et déontologie médicale ». Il n'est pas de qualité des soins sans confidence, de confidence sans confiance et de confiance sans secret. Bon.
Vous venez d'entendre le docteur Aline Marcelli, membre correspondant de l'Académie nationale de médecine et président d'honneur du Conseil de l'Ordre des médecins de la ville de Paris, faisant une communication sur le thème « Confidence et secret médical ». Toutes nos émissions sont en libre accès dans la médiathèque.